Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Art-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Relativité restreinte et théorie classique des champs est le troisième volume de la série Le minimum théorique, écrit par le physicien Leonard Susskind avec Art Friedman. L'ouvrage ne vise ni la vulgarisation sans calcul, ni le manuel universitaire exhaustif. Il propose plutôt les outils mathématiques et conceptuels minimaux nécessaires pour suivre la logique de la physique moderne. Sa première partie expose la relativité restreinte à partir des transformations de Lorentz, des quadrivecteurs et des lois relativistes du mouvement. La seconde développe la théorie classique des champs, avec une place centrale accordée à l'électromagnétisme, aux équations de Maxwell, aux principes d'action et à l'invariance de jauge. Le fil directeur et l'unification, les mêmes principes de symétrie, de localité et de variation de l'action organisent les lois du mouvement des particules et la dynamique des champs. Le livre sert ainsi de passerelle vers l'étude plus avancée de la théorie quantique des champs et de la relativité générale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les transformations de Lorentz remplacent le temps et l'espace absolu. Le livre commence par le changement de cadre imposé par la relativité restreinte. Plutôt que de traiter les effets relativistes comme une liste de paradoxes ou de curiosités expérimentales, Susskind et Friedman les rattachent aux transformations de Lorentz. Celle-ci relie les coordonnées d'un même événement vu depuis des observateurs en mouvement relatif uniforme. Elles expriment une conséquence fondamentale des deux principes einsteiniens: les lois physiques sont identiques dans tous les référentiels inertiels et la vitesse de la lumière possède la même valeur pour chacun d'eux. Il s'ensuit que durée et distance ne sont plus des grandeurs indépendantes et universelles. La simultanéité dépend du référentiel, tandis que l'intervalle d'espace-temps fournit une quantité commune plus profonde. Cette approche évite de présenter la dilatation des durées et la contraction des longueurs comme des illusions optiques. Ce sont des relations de mesure cohérentes entre observateurs, dérivées d'une géométrie différente de celle de la mécanique newtonienne. Le choix de partir des transformations prépare aussi les chapitres suivants. Toute loi physique destinée à être compatible avec la relativité doit conserver sa forme sous C. Transformation. La relativité devient ainsi un principe de construction théorique et non seulement une correction applicable aux objets très rapides. Deuxièmement, quadrivecteurs et dynamique relativiste donnent une forme géométrique aux lois du mouvement après les coordonnées d'espace-temps. L'ouvrage introduit les vitesses relativistes et les quadrivecteurs. Cette étape est décisive car les objets ordinaires de la mécanique, tels que la vitesse, la quantité de mouvement et l'énergie, doivent être reformulés pour respecter l'invariance de Lorentz. Un quadrivecteur rassemble des composantes temporelles et spatiales qui se transforment ensemble lors d'un changement de référentiel. Cette écriture rend visibles les invariants et limite les risques de raisonner avec des formules newtoniennes hors de leur domaine de validité. La quantité de mouvement relativiste et l'énergie sont alors liées dans une même structure, ce qui éclaire la relation entre masse et énergie sans la réduire à une formule isolée. Le livre traite aussi des lois relativistes du mouvement et de la manière dont force, accélération et impulsion cessent d'entretenir les rapports simples familiers de la mécanique classique. Une force constante ne permet notamment pas de franchir la vitesse de la lumière, car l'énergie nécessaire augmente sans borne à l'approche de cette limite. Cette présentation sert une fonction méthodologique, elle montre que la relativité conserve l'idée de loi dynamique, mais exige de modifier les variables utilisées. Les calculs sont mis au service d'une cohérence géométrique plutôt que d'une mémorisation de résultats. Troisièmement, la théorie classique des champs étend la mécanique à des grandeurs distribuées dans l'espace. La partie consacrée aux champs déplace l'attention des trajectoires de particules vers des grandeurs définies en tout point de l'espace et évoluant dans le temps. Un champ peut décrire par exemple une température, une onde ou les composantes du champ électromagnétique. Cette notion est indispensable parce que les interactions physiques ne sont pas toutes convenablement représentées comme des forces instantanées entre corps séparés. Un champ porte localement l'information sur l'état physique et sa dynamique peut respecter la propagation finie exigée par la relativité. Susskind et Friedman articulent cette transition avec les outils de la mécanique analytique au lieu d'une action associée à quelques coordonnées. On considère une action associée à une configuration de champ entière. Les équations d'Euler-Lagrange deviennent alors des équations différentielles pour des fonctions de l'espace et du temps. Ce passage est plus qu'un changement de notation. Il explique comment les notions d'énergie, de quantité de mouvement et de symétrie s'appliquent à des systèmes continus. Il fournit aussi le langage commun à l'électromagnétisme et à d'autres théories de champs. Le lecteur comprend pourquoi cette matière constitue un préalable utile à la théorie quantique des champs, où les particules sont interprétées comme des excitations quantifiées de champs tout en restant ici dans un cadre strictement classique. Quatrièmement, l'électromagnétisme de Maxwell relie ondes, charges et relativité. L'électromagnétisme occupe une position centrale dans l'ouvrage car il offre l'exemple le plus riche de théorie classique des champs compatibles avec la relativité restreinte. Les équations de Maxwell ne décrivent pas seulement les effets des charges et des courants, elles montrent que les champs électriques et magnétiques évoluent ensemble et se propagent sous forme d'ondes. La vitesse de ces ondes est la vitesse de la lumière, fait historique et conceptuel qui a contribué à rendre nécessaire la relativité restreinte. Le livre examine la loi de la force de Lorentz, qui établit comment les champs agissent sur les particules chargées, puis les conséquences physiques des équations de Maxwell. Cette progression met en évidence la réciprocité entre matière et champ. Les charges produisent des champs, mais les champs possèdent eux aussi une énergie, une impulsion et une capacité à transporter de l'énergie. Le vecteur de Poynting formalise ce flux énergétique dans le champ électromagnétique. La présentation tensorielle et relativiste aide également à comprendre que les champs électriques et magnétiques ne sont pas deux réalités totalement séparées. Selon le mouvement de l'observateur, leurs composantes se mélangent. Maxwell devient donc le terrain où se vérifient concrètement les exigences de covariance relativiste et où la théorie des champs révèle sa puissance unificatrice. En dernier lieu, principe d'action, localité et invariance de jauge guident la construction des théories. L'un des apports distinctifs du livre est de ne pas présenter les équations de Maxwell comme des lois à accepter telles quelles. Il montre comment des principes généraux restreignent fortement les formes possibles d'une théorie. Le principe d'action affirme que l'évolution physique rend stationnaire une certaine quantité globale, l'action. La localité exige que les interactions soient formulées à partir de propriétés définies localement, ce qui exclut les influences physiques instantanées à distance. L'invariance de Lorentz garantit la compatibilité avec la structure de l'espace-temps relativiste. Enfin, l'invariance de jauge exprime qu'une partie de la description mathématique des potentiels électromagnétiques est redondante, différentes représentations peuvent correspondre au même champ observable. Ces contraintes ne sont pas de simples raffinements formels. Ensemble, elles permettent de construire un lagrangien de champs électromagnétiques et d'en tirer les équations de Maxwell par variation. Cette démarche révèle la raison structurelle de la forme des lois. Elle introduit aussi une méthode largement employée dans la physique théorique contemporaine, identifier les symétries et les principes de cohérence avant de chercher les équations. Détaillée. La dernière mise en relation entre champs et mécanique classique souligne ainsi la continuité des outils, depuis les particules jusqu'au système continu relativiste. En conclusion, ce livre s'adresse surtout aux lecteurs qui souhaitent dépasser les explications qualitatives sur Einstein, la lumière ou les champs, sans entrer immédiatement dans un traité universitaire spécialisé. Une pratique préalable de l'algèbre linéaire, du calcul différentiel et du formalisme lagrangien est fortement utile. Les lecteurs ayant étudié le premier volume de la série y trouveront une continuité naturelle, tandis que les autodidactes possédant ces bases pourront l'utiliser comme parcours structuré. Son bénéfice intellectuel principal est de faire comprendre comment les équations naissent de contraintes physiques précises, plutôt que de les présenter comme un catalogue de résultats. La relativité y apparaît comme une géométrie et une exigence de symétrie, tandis que l'électromagnétisme devient une théorie dynamique de champs dotés d'énergie et d'impulsion. Par rapport à de nombreux ouvrages d'introduction à la relativité, celui-ci se distingue par l'importance accordée à la théorie classique des champs et à la dérivation des équations de Maxwell depuis une action. Par rapport à un manuel formel, il limite volontairement l'appareil technique et relie régulièrement les concepts entre eux. Les dialogues introductifs et le ton direct allègent l'exposition, mais ne transforment pas le texte en lecture passive. C'est donc un ouvrage particulièrement pertinent pour apprendre à manipuler les idées fondatrices de la physique théorique moderne avec papier, crayon et attention soutenue, ainsi que pour préparer une étude ultérieure de la relativité générale ou des champs quantiques. Si vous souhaitez soutenir Leonard Susskind, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.